Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur RFI Roumanie et vous écoutez l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Ali Mouhoub, cadre dirigeant de l'éducation nationale française, qui, depuis l'année dernière, est attaché de coopération éducative et coordinateur des alliances françaises en Roumanie. Nous sommes le vendredi 20 mars, journée internationale de la francophonie. Sa présence au Micro du Soir tombe donc parfaitement. Avec lui, nous allons bien sûr parler de francophonie, en Roumanie notamment, mais aussi d'enseignement et de son quotidien en tant que cadre dirigeant dans le domaine de l'éducation. Ali Mouhoub, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour cette première fois au Micro du Soir. Nous sommes ravis de vous accueillir.
Merci à vous.
Alors, en lien avec votre mission, ou plutôt l'émission que vous menez en Roumanie, depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'il s'agisse de vos relations avec d'autres professionnels, les structures d'accueil, les élèves, ce qui vous a le plus marqué?
Alors la qualité de l'accueil humain, tout d'abord, le lien aussi qu'entretient la Roumanie avec la langue française. J'ai trouvé un attachement à la langue française, au-delà du lien historique et symbolique. Un attachement qui est concret, qui est incarné dans des enseignants très engagés, des élèves curieux, des établissements dynamiques, des alliances françaises attractives, différents dispositifs, les filières bilingues d'excellence, on en parlera peut-être tout à l'heure, et un lien lucide dans le sens où on aime le français, en Roumanie on aime le français pour tout ce que cette langue charrie de positif culturellement, langue de savoir, etc. etc. Mais aussi, on l'aime parce que c'est une langue qui permet de la mobilité, qui permet de se former, et une langue qui permet d'avoir des trajectoires professionnelles intéressantes en Roumanie.
Ceci étant, Quand vous entendez que la francophonie perd du terrain en Roumanie et dans la région sud-est européenne de façon générale, qu'est-ce que vous aimez répondre?
Alors, moi je vais répondre pour la Roumanie. Pour la Roumanie, je crois qu'il faut se méfier des diagnostics trop rapides. En fait, l'équilibre linguistique en Roumanie évolue. Et c'est tant mieux en vérité, puisque ça prouve que les langues qui sont impliquées dans cet équilibre linguistique sont des langues vivantes. Deuxième fait, c'est effectivement l'anglais s'est imposé partout en Europe, donc en Roumanie comme ailleurs, l'anglais est obligatoire. Et c'est pas pour autant que la francophonie est en recul, en fait je pense plutôt que la francophonie est en recomposition, elle change de forme. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a 50 ans, un élève choisissait automatiquement le français. Aujourd'hui, un élève qui choisit le français, c'est un choix éclairé. C'est parce qu'il y a un projet derrière. Et le français dans l'enseignement se porte très bien. Les élèves en Roumanie choisissent une LV1, une langue vivante première, dès l'entrée en CP. Dans 90% des cas, c'est l'anglais. Mais dans un peu plus de 8% des cas, c'est le français. Pour la LV2, donc la langue vivante 2, qui est choisi à l'entrée au collège, donc l'équivalent de la sixième, on est à 75% d'élèves qui choisissent le français. Donc ça veut dire que 3 élèves sur 4.
Ah oui, en Roumanie, 3 élèves sur... Ah oui, ça, c'est un, donc, une donnée à mettre en avant. Enfin, je ne pensais pas que le pourcentage était aussi élevé.
C'est important. Et donc 75%, mais le reste c'est pour les autres langues. Donc le français se porte plutôt bien. On a des alliances françaises à travers tout le territoire. Le 26 mars, Brasov, l'alliance de Brasov fêtera ses 35 ans. À côté de ça, Craiova, une création d'alliance française en juillet dernier. On a des partenariats universitaires. Non, je pense que vraiment le français se porte bien. La francophonie a changé, le contexte ont changé, mais je suis plutôt optimiste. Et d'ailleurs, lorsque je croise des élèves ou des étudiants, les représentations qui sont autour du français sont plutôt positives. C'est une langue de mobilité, une langue de culture. Donc, je suis plutôt positif. Et puis en plus, dans l'écosystème, dans le monde qui est le nôtre, qui est celui de l'Europe, le plurilinguisme, c'est juste une évidence. C'est impossible. Donc, on ne peut pas faire qu'avec l'anglais. Et une langue en plus, c'est une chanson en plus. Donc, je ne me fais pas de soucis pour le français.
Allons un peu plus en profondeur, justement, par rapport à ce que vous dites. Ça veut dire quoi, apprendre le français ? Ça, en termes pas simplement linguistiques, mais plus en avant.
Alors, déjà, apprendre une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère, c'est une aventure magnifique. C'est une aventure magnifique parce que ça vous offre une nouvelle fenêtre sur le monde. Vous explorez, parce qu'apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Donc, c'est explorer les arcanes.
Notre façon de voir le monde.
Exactement. Donc, de fait, c'est une force. Alors, apprendre le français, c'est tout ça, mais aussi, c'est accéder à une grande culture, à une littérature d'une richesse inouïe, puisque littérature française, mais aussi toute la littérature francophone, à une histoire intellectuelle, à une tradition diplomatique. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, apprendre le français, c'est se donner des moyens très concrets d'étudier, de circuler, de travailler, de participer à des mobilités universitaires, d'accéder à des carrières très très différentes, depuis les métiers de l'hôtellerie, du tourisme, la gastronomie, la mode, les relations internationales. Donc apprendre le français, c'est tout ça. Et en plus, je crois, modestement, parce que j'aime à dire que je suis encore nouveau en Roumanie, parce que je suis arrivé au mois de septembre, je suis plus tout à fait nouveau, mais bon. Je crois que apprendre le français en Roumanie, ça revêt une dimension toute particulière. J'ai l'impression que nos deux langues, donc le français et le roumain, ont une proximité indéniable. Nos histoires culturelles ont une proximité indéniable. Et tout ça fait que apprendre le français en terre roumaine... Enfin, comment dire ça ? Oui, ça y est, je sais comment dire ça. En fait, en terre roumaine, le français n'est pas une langue lointaine. Voilà.
Mmh. Très bien. Vous avez été enseignant.
Oui.
Le restez-vous ?
Oui, je crois qu'on le reste toujours un petit peu. C'était une fabuleuse aventure et je crois qu'on en garde les stigmates. Les stigmates plutôt agréables. Je crois qu'on en garde le goût de la transmission, l'attention aux élèves. Un respect profond pour le travail des enseignants.
Ça vous aide toujours dans votre fonction aujourd'hui.
C'est fondamental.
Précisément comprendre les problématiques éventuelles.
C'est fondamental parce qu'effectivement aujourd'hui je ne suis pas face à des classes, mais je continue à accompagner des établissements, accompagner des équipes, des projets, de la coopération, des formations, etc. Donc je reste au service de l'éducation et j'ai l'impression que j'espère en tout cas bien travailler. Et ce qui m'aide à bien travailler, c'est le lien que je garde avec le terrain pédagogique. C'est fondamental.
Vous pensez que vous y retournerez à un moment donné ou à un autre à l'enseignement ?
Écoutez, je ne sais pas. Ce n'est pas exclu. Une carrière, ça évolue. C'est des rencontres. Là, je suis très heureux dans mes fonctions de cadre. Le contact avec les élèves, les étudiants, puisque j'ai enseigné au premier degré, second degré et dans le supérieur, me manque, c'est sûr. Mais oui, non, je ne me l'interdis pas.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos activités au quotidien ? Au-delà de la relation, comme vous l'avez dit, avec vos élèves, avec les gens, vous avez eu un très bon accueil, mais vous, personnellement, quand est-ce que vous ressentez un vrai plaisir ?
Alors, pas tous les jours, malheureusement, mais globalement, la plupart du temps. Je le ressens parce que, de nature, j'aime tout ce qui est transversal. Et là, je suis des fonctions qui sont à la croisée entre l'école, la coopération internationale, la langue française, la culture, les institutions, des personnes. Et en fait, dans la même journée, je vais travailler avec un ministère, souvent le ministère de l'éducation roumain. J'ai travaillé avec un chef d'établissement, avec des équipes d'enseignants, avec des élèves, avec une alliance française, avec un des pôles de l'Institut français. Donc, et tout ça, c'est intéressant parce que ça converge vers un même but ou une même question. En fait, c'est un but-question, c'est un peu les deux. C'est comment transmettre de manière plus efficace et comment accompagner. Et je crois aussi que ce que j'aime dans ces fonctions-là, dans les fonctions de cadre en manière générale, les fonctions de cadre dans l'éducation, c'est ce moment où une politique publique se transforme et devient concrète et qu'on voit les effets positifs qu'elle a sur des élèves, sur des enseignants, sur des établissements. Mmh. Voilà.
Parlez-nous de ces... Parce qu'on va discuter d'autres choses, si vous voulez bien, après. Mais vous les avez mentionnées, ces filières bilingues d'excellence.
Oui.
C'est quoi?
Alors, elles sont 25 sur le territoire roumain, réparties un peu partout. Une seule à Bucarest, donc ce n'est pas capitalo-centré. Vraiment, ça arrose l'ensemble du territoire. Donc, c'est au lycée. Ce sont des élèves qui choisissent de faire 5 heures de langue et littérature française.
En plus.
Au total, en fait.
D'accord.
Voilà, au total, leur nombre d'heures, c'est 5 heures de langue et littérature. À cela s'ajoute une DNL, donc discipline non linguistique, qui est les deux premières années du lycée, donc 9e et 10e. 9e et 10e, oui. Histoire-géographie. Puis après, alors, ils choisissent dans le panel que leur établissement leur offre. Donc, il y a physique-chimie, il y a biologie.
Enfin,
il y a...
C'est 6e, 5e, hein, dans le reporté aussi.
Non, c'est au lycée.
Au lycée.
C'est au lycée, donc c'est la première classe du
lycée. Ah pardon, excusez-moi, le collège et lycée, oui, pardon. Oui, oui. Seconde, première. Oui,
voilà,
pardon,
exactement. Sauf que le lycée, comme vous le savez bien, ici, c'est 4 ans. Et, voilà. Mmh. Et ce sont des élèves qui, en fin de parcours, pour rentrer dans ces filières, j'aurais dû commencer par ça, il faut minimum avoir un niveau A2, puisque l'enseignement est exigeant. Mais c'est des élèves qui arrivent en fin de parcours, qui sont totalement biculturels. Et, alors pas tous, mais la plupart sont bilingues. Ceux qui ne le sont pas s'en rapprochent, ils ont une parfaite maîtrise de la langue française, de la culture, des codes. Et ce sont des élèves particulièrement...
J'imagine qu'il y a une sélection pour entrer dans ces filières au départ.
Oui, parce qu'il y a un prérequis. Ouais. Prérequis qui est le niveau A2. À Bucarest.
Une sélection par dossier ou
Alors, vous savez, la fin de collège ici, vous passez votre brevet et en fonction des notes que vous avez obtenues en roumain et en français, non, pas en français, en mathématiques, pas encore en français, vous rentrez dans tel ou tel établissement. Puis les établissements, après, ont leur propre politique. Donc les établissements qui ont des filières bilingues ne peuvent pas se permettre de prendre des élèves qui commencent au vu des contenus qui sont exigeants. Et à Bucarest, la seule filière bilingue, label France Éducation que nous avons, c'est l'école centrale. Et puis, excusez-moi. Oui, oui. Et puis aussi, ce sont des élèves qui continuent ou pas dans les filières francophones à l'université, bien sûr.
Je reviens à la présentation, l'introduction plutôt. Vous êtes également coordinateur des alliances françaises. J'étais en train de me dire qu'on n'en parle pas suffisamment. Enfin, personnellement, au micro du soir, je me disais que j'en avais pas parlé suffisamment. Alors, c'est quoi une alliance française, d'abord, et quelles font-elles?
Alors, les alliances françaises, on en a 6 ici, en Roumanie. Les plus... Alors, il y a Ploiești, Pitej, vous pardonnerez la prononciation.
Prononcé. C'est très bien prononcé.
Donc, Ploiești, Pitej, Constanța, Brașov. Donc ça, ce sont les anciennes. Comme je disais, Brașov et Ploiești fêtent leurs 35 ans cette année. La première, c'était celle de Pitești. Et on a les deux dernières, donc Suceava qui date de 3-4 ans et Craiova de juillet dernier. Donc une alliance française et propose des cours de français, et, mais pas que. Aussi des activités culturelles et l'objectif, c'est de faire découvrir la langue et la culture française. Ce sont des dispositifs qui se...
Ce sont des mini-instituts, quelque part.
Oui, sauf que l'activité
vous
est quand même bien
centrée.
Alors, il y a des rencontres, hein, des points de rencontre, parce qu'à l'institut, on a nos cours. Ils ont leurs cours aussi. On a une activité culturelle. Ils ont une activité culturelle, mais c'est à moindre échelle. Il y a peut-être moins de diversité. Que les antennes de l'Institut français. Et le fait d'avoir ces 6 alliances sur l'ensemble du territoire, puis Oui, c'est souvent aussi des centres de passation d'examen pour les certifications DELTALF aussi. Ça permet d'avoir des relais dans les, comme on dit en français, dans les régions. Et ça permet d'arroser l'ensemble du territoire et d'avoir une présence française, francophone, sur l'ensemble du territoire.
Merci pour ces précisions. Alors, il y a deux semaines, nous recevions Simon Valette, le proviseur du lycée français Anna Denoye de Bucarest. Avec lui, nous avons notamment évoqué la problématique des nouveaux moyens de communication dans l'enseignement, les smartphones, réseaux sociaux, intelligence artificielle, etc. Alors, j'aimerais avoir votre position par rapport à ces nouveaux, entre guillemets, moyens de nouveaux outils. Faut-il les intégrer que coûte, les contrôler ou bien les interdire le cas échéant, comme ça a été dernièrement le cas. Je crois que la loi est passée ou elle doit être encore en...
Le décret d'application,
est en attente, voilà. Pour l'interdiction des réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois. Enfin, alors qu'en Australie, ça a été le premier pays qui a interdit les réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 16 ans, hein, je crois. En Australie, 16 ans, en France, 15 ans. Bon, ça c'est une... voilà, c'était le cas d'une interdiction. Vous, quelle est votre approche par rapport à tout ça?
Alors, dans votre question, il y a trois sujets. J'ai écouté la... Parce que j'écoute vos émissions.
C'est très bien.
Et j'ai écouté Simon Valette qui parlait de l'usage du portable et des réseaux sociaux. Je rejoins... tout ce qu'il a dit, c'est très compliqué. En fait, on est parfois face à des injonctions contradictoires parce que, comme il le disait très bien, dans un établissement, on fonctionne par écran. Les informations sont envoyées sur différentes plateformes. Donc, c'est pour y avoir accès, il faut un téléphone. Mais il y a des établissements en France qui expérimentent et je crois que c'est plutôt sain. Les dangers des réseaux sociaux ont été évoqués par Simon, donc je reviendrai pas dessus. En revanche, peut-être un tout petit ajout sur l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui on est le 20 mars et qu'aujourd'hui à l'Institut français on a fait deux formations autour de l'intelligence artificielle, et surtout parce que c'est un peu le leitmotiv des formations en langue, cette intelligence artificielle. Et je crois que
c'est-à-dire comment s'intègre-t-elle?
Alors c'est ça, c'est tout l'enjeu. En fait, je crois que, de fait, elle est présente, cette intelligence artificielle. Donc, être en déni non constructif, ça sert à rien. Et je crois qu'il y a deux excès à éviter. La fascination et la peur. Et le ministère de l'Éducation, le ministère français de l'Éducation nationale a publié un cadre très clair. Qui est juste sur cette intelligence et sur l'usage de l'intelligence artificielle.
Quand il a fait ça?
C'est relativement récent. Oui, c'est assez récent. D'accord. Oui, c'est assez récent. Je pourrais vous transmettre la charte. C'est vraiment très intéressant. C'est très très bien fait. Le principe, c'est que l'intelligence artificielle n'a d'utilité dans l'espace éducatif que si elle est au service des apprentissages ou des pratiques professionnelles. Et un outil, parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil d'abord, et c'est qu'un outil, parmi d'autres. Donc, un outil n'a de... Comment dire Un outil, s'il aide à mieux apprendre, s'il aide à mieux comprendre, s'il aide à développer son esprit critique, il a toute sa place. Et là, l'enjeu, c'est de former les enseignants, parce que, comme je vous le disais, on ne peut pas être en déni non constructif face à ça. Il faut que les enseignants comprennent bien les points de vigilance, tout ce qui est protection des données, tout ce qui est la transparence de l'usage, les biais possibles, les erreurs possibles, l'impact environnemental. Et l'idée, c'est que ça fasse partie de la mallette des outils, mais surtout, que ça ne remplace ni l'apprentissage, ni la pensée humaine, bien sûr.
Parce que, il y a eu cette interdiction, précisément, parce que des médecins ont alerté sur le phénomène de... ils sont allés jusqu'à parler de déficience cognitive, le manque d'attention. Et dernièrement, j'ai interviewé une ophtalmologue qui me disait que, vis-à-vis des écrans, il y avait des maladies, notamment la myopie, qui se générait quand on est adulte. Il y a pas, on génère pas de maladie, on fatigue les yeux, les yeux se fatiguent, mais c'est à l'enfance, pendant l'enfance et après l'adolescence que les écrans peuvent générer de la myopie, notamment parce que les enfants ne vont pas suffisamment, ne vous jouent pas suffisamment en plein air et que les rayons ultraviolets du soleil était important pour les yeux. Alors ça, je ne savais pas. Donc c'était important. Est-ce que vous, c'est aussi, ça fait partie de votre message, non pas comme vous le dites, et très justement, d'être dans un radicalisme technophobe, évidemment, mais d'alerter quand même, parce que quand on voit ces jeunes, et moi je les côtoie, ils ont 22, 23 ans, on les sent quand même assez apathiques et c'est difficile de leur faire comprendre tout ça, que ce n'est qu'un outil, que, voilà, qu'il faut l'utiliser modérément.
Oui, c'est fondamental qu'il y ait une prise de conscience. Les jeunes, mais d'abord les parents, les adultes, parce que c'est très compliqué, je pense, pour des parents. Moi, je ne le suis pas, mais... d'être en injonction contradictoire, de demander à l'enfant de contrôler et d'être soi-même sur l'écran. C'est une prise de conscience sociétale, mais je crois que ça passe par de la formation, ça passe par de la pédagogie. Simon parlait de pédagogie, mais c'est ça, ça ne peut pas être en interdisant, parce que déjà on ne peut pas. Et puis quand on interdit, les gens n'ont que envie de se confronter à l'interdit. Donc oui, je crois que c'est formé et ça sera sur du temps long parce que aujourd'hui c'est profondément inscrit dans nos usages tous autant qu'on est, même en étant conscient de ça. Donc c'est un patient accompagnement.
Très bien. Parlons de façon plus large d'éducation et de santé, un autre domaine qui vous est cher. Je précise que vous avez également été infirmier dans une autre vie pendant 7 ans. Donc ce sont deux domaines qui sont cruciaux, évidemment, mais qui sont souvent soumis à des coupes budgétaires, ici et ailleurs. Comment vous ressentez ces coupes-là? Elles peuvent être tout à fait rationnelles et avoir une raison valable, mais de façon générale, quand vous voyez que on ne comprend pas que la santé et l'éducation, et je me permets de le dire, je suppose que vous serez d'accord avec moi, sont véritablement peut-être les deux principaux piliers d'une société démocratique et qui se veut en bonne santé et générer le bien-être pour ses citoyens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Alors, pas plein de choses. D'abord, la santé et l'éducation, c'est deux domaines qui sont très liés. C'est des domaines qui se ressemblent beaucoup, des domaines où, vous l'avez dit, l'humain est au centre, l'humain dans sa globalité. Je vais partager avec vous, j'ai été infirmier, j'ai travaillé dans différents secteurs, et notamment aux urgences, quand vous avez quelqu'un qui arrive à 3h du matin parce qu'il a mal au ventre, ça faisait une semaine qu'il a mal au ventre et que c'est ce soir-là qu'il vient à 3h du matin, eh bien, il faut le prendre dans sa globalité pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, parce que sinon, vous passez à côté de plein de choses. Si vous concentrez juste sur le symptôme, vous avez tout perdu. Et un élève, c'est pareil. Quand vous l'avez dans votre classe, vous êtes censé le récupérer avec tout ce qu'il sait faire, ses acquis, ses lacunes, ses fragilités. Un professeur de langue, par exemple, va faire tout de suite un travail de biographie langagière pour savoir cet élève, à quelle langue il a été exposé, son rapport aux langues, etc. Tout ça pour dire que lorsqu'on est dans l'éducation ou dans la santé, on ne s'occupe pas seulement de structures, de dispositifs, mais on s'occupe surtout de personnes. On accompagne des personnes, on accompagne des parcours, on accompagne des fragilités, des espérances. Et à ça se greffent effectivement des contraintes budgétaires et qui sont aujourd'hui une des réalités de l'action publique. Je crois que... Et une chose très simple, c'est que tout arbitrage dans ces deux domaines-là, certainement dans d'autres, mais en tout cas dans ces deux domaines-là, ont un impact direct sur la qualité du service rendu, sur la continuité, sur la formation et in fine sur la présence humaine. Et que, alors, la question des moyens, elle est importante parce que ça compte, je suis totalement d'accord avec vous, mais au-delà de la question des moyens, je pense qu'il y a la question des priorités. Et je crois que dans l'éducation, comme dans la santé, il faut à tout prix conserver, maintenir et se battre pour maintenir certaines priorités qui sont la qualité, qui sont le rapport humain et puis l'attention portée aux plus vulnérables.
Et que ce ne sont pas deux marchandises comme n'importe lesquelles, et qui doivent être traitées, ce sont deux domaines qui doivent être traités à leur juste valeur. J'en profite pour rappeler que, c'est un fait que j'ai toujours du mal à comprendre, la Roumanie, même si elle est en déficit, elle a un problème de déficit public, il n'empêche que, et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté politique, le pourcentage pour la santé reste à 6%, alors que la moyenne européenne est à environ 11%. On est parmi les derniers pays qui s'occupent de leur santé publique. Mais ça aussi, il y a des raisons historiques, donc il ne faut pas critique non plus, mais il n'empêche que c'est toujours un fait. Et il y a cette... Que ce soit dans le domaine de la santé, là, ce n'est pas qu'en Roumanie, ou l'éducation, il y a une tendance à la privatisation, à cette idée de... On va mettre en place de la performance. Je crois que ça, dans les hôpitaux publics en France, c'est un sujet très actuel. Les infirmiers, notamment, se plaignent du fait qu'on ne peut pas mettre en place un critère de performance dans un hôpital public. C'est pas n'importe quelle entité, l'hôpital.
C'est pas n'importe quelle entité. Je suis totalement d'accord. Et après...
Si on doit passer plus de temps avec un patient parce qu'il en a besoin, il faut avoir...
Totalement, je suis totalement d'accord. Après, ça dépend ce qu'on met derrière la performance, parce qu'on peut très bien choisir de mettre dans la performance le fait de passer du temps auprès d'un patient.
C'est vrai.
Sont les critères.
Ça dépend comment on la prend. Vous parliez de... On va encore plus élargir, hein, pour terminer cet entretien. J'ai envie qu'on parle avec vous un peu du Maghreb, hein, de l'Afrique de façon générale, hein, parce que vous êtes aussi spécialiste, hein, de la langue arabe, hein, si je lis bien votre...
Tout à fait.
Si j'ai bien lu votre curriculum. Et c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que... on l'a peut-être omis de le dire, c'est que l'apprendre le français, c'est aussi... l'ouverture à beaucoup de pays, de tout un continent absolument extraordinaire qui est l'Afrique. Alors, je suppose que c'est le Maghreb que vous connaissez.
Le Maghreb et le monde arabe, et le Proche-Orient, le Liban, par exemple.
Également. Alors, parlez-nous de cette ouverture à travers le français, de ce monde-là. Comment, d'ailleurs, cohabite l'arabe et... même si je crois qu'il y a plusieurs dialectes, et l'arabe est aussi une langue qui se décline énormément suivant les pays, mais comment cohabite-t-il le français avec les langues arabes, on va dire, aujourd'hui?
Alors, c'est un vaste sujet comme dernière question.
C'est vrai.
Je vais essayer de faire... Je vais être synthétique, c'est pas mon fort. J'ai une tendance à la digression, comme pas mal d'enseignants. Alors, d'abord sur la langue arabe, donc on a globalement 23 pays arabes qui se partagent une langue commune, qui est la langue arabe, langue moderne standard. Chacun a son dialecte. Chaque pays a son dialecte, j'entends. Et il y a intercompréhension entre les sphères. On va dire globalement que pour aller très très vite, j'espère que je ne vais pas me faire incendier par vos auditeurs, mais traditionnellement, les locuteurs du Maghreb comprennent les orientaux. L'inverse n'est pas vrai, pour plein de raisons concrètes, d'accord, linguistiques, mais aussi des blocages en vérité. Mais, et dans ces régions, dans toutes ces régions-là, dans tout cet espace-là, l'arabe est arrivé à différents moments. Il s'est imposé, mais il y a des substrats, d'autres langues qui existent au Maghreb. Évidemment, on pense aux langues berbères, et puis d'autres langues dans d'autres parties du monde arabe. Et le français, alors c'est très très difficile de voir.
Déjà, excusez-moi, je veux un petit peu déjà vous aider à préciser une question. Ouais. Dans tous ces pays arabes, dans combien d'entre eux le français est-il majoritairement parlé?
En majorité, c'est sûr, mais je peux les compter à la main si vous voulez, mais en une majorité. Déjà,
le Maghreb.
Le grand Maghreb avec les 5 pays, on ne compte pas la Libye, hein, mais même en Mauritanie, le français est très parlé. Mm-hmm. Dans les pays du Levant, clairement le Liban. Et dans la péninsule arabique, on a des pays qui sont francophones, le Qatar notamment, mais on ne peut pas dire que le français y soit majoritairement parlé. Donc globalement, on va dire, ça se passe entre les pays, l'Égypte aussi, qui est un pays de la francophonie. J'ai été 4 ans en Égypte, j'ai oublié, pardon. Mais peut-être les rapports les plus complexes vont se trouver au Liban et au Maghreb.
Quand vous dites rapports complexes.
Parce que c'est l'histoire.
Grande majorité libanais parle français, non?
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Mais pour autant, ça n'empêche pas que c'est. Des projections identitaires, politiques et religieuses sur le français. Mm-hmm. Globalement, on pense que le français, pareil, c'est pour aller vite, et je m'excuse auprès des auditeurs.
C'est très bien, parce qu'on complète une question que je vous avais faite sur ce que ça voulait dire apprendre le français. Vous voyez, là, vous dites aux auditrices et auditeurs que c'est pas simplement pouvoir aller en France, c'est être ouvert c'est s'ouvrir à tous ces pays.
Exactement. Oui, à tous les pays de la francophonie.
C'est quand même extraordinaire.
Et d'ailleurs, on a fait, il y a la deuxième semaine du mois de mars, toute une semaine autour des expressions francophones. C'était très, très, très rigolo. Vous les trouverez normalement sur notre site. Sur notre compte LinkedIn, pardon. Je parlais donc du Liban. On pense naturellement, enfin, au Liban, le français est associé à la communauté maronite, chrétienne. En revanche, donc, on va la penser comme moins arabophone, ce qui n'est pas vrai du tout. La communauté orthodoxe, chrétienne, est vécue comme profondément arabophone, plutôt anglophone, et alors qu'en fait, ils switchent. Ouais. Et chez les musulmans, vous avez les sunnites qui sont plutôt francophones, et les chiites plutôt anglophones. Mais bon, au Liban, tout le monde switch entre l'arabe, le dialecte libanais, le français, l'anglais, enfin, c'est une société multiculturelle. Voilà. Au Maghreb, c'est différent. C'est une autre histoire, et même à l'intérieur du Maghreb, c'est différent. Le rapport au français au Maroc et en Tunisie, c'est pas le même qu'en Algérie.
Où le français est-il langue officielle?
En
double avec la langue. Non, aucun.
Non.
D'accord, aucun de ces pays.
Non, aucun de ces pays. Mais à ma connaissance. À ma connaissance, avec toutes les précautions, je suis quasiment sûr qu'à minima, l'administration étant au Maghreb étant bilingue, en français. D'accord. Et en arabe. Donc oui, c'est une espèce de rapport de « je t'aime, moi non plus ». Mais le français est profondément ancré dans les sociétés maghrébines. Et puis il y a aussi tous les aléas politiques, des relations entre les deux pays. Mais au-delà de ces aléas politiques, les vrais gens sont très attachés au français. Et puis ces dialectes-là, on parlait des dialectes maghrébins, les orientaux leur reprochent d'être d'avoir trop de mots de berbère, du coup on ne les comprendrait pas. Il y a du berbère, c'est vrai, parce que c'est un substrat, puis on dit que c'est beaucoup du français et un petit peu d'arabe. C'est vrai, ça l'a été, puis ça change à la faveur de l'arabisation, mais le français est présent dans toutes les
rues. Et vous le sentez présent pour encore longtemps.
Ah oui, bien sûr.
Longtemps.
Oui, hein, c'est des auteurs maghrébins qui n'écrivent qu'en français. Tout à fait. Donc non, le français, c'est une langue vivante dans toute cette partie du monde. Donc le monde arabe et l'Afrique, bien sûr.
L'Afrique de l'Ouest, notamment.
Bien sûr.
Oui. D'accord. Vous voyez, je suis content qu'on ait un petit peu élargi géographiquement notre discussion, parce que on a complété encore une fois ce que vous disiez sur pourquoi apprendre le français était essentiel en tant linguistiquement, culturellement, et pour pouvoir aller et pourquoi pas vivre dans tous ces pays. Merci beaucoup, Ali Mouroub, pour cet entretien. On a été ravis de vous recevoir. Ce ne sera pas la dernière fois, hein, parce que vous venez d'arriver. Donc, si vous voulez bien, on refera le point sur tout ce qu'on
a plaisir.
Dit. Je suis curieux de savoir comment votre expérience roumaine va évoluer.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci à vous, Ali Mouhou. Chères auditrices, chers auditeurs, belle fête de la francophonie et week-end placoute. Bon week-end. Au revoir.